L'FIT RFI 10h10 à Paris.
C'était le journal de Jean-Baptiste Marot.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les jours. Vous le savez, à cette heure-ci, RFI vous donne la parole. RFI vous propose de commenter l'actualité. D'ailleurs, dans 30 minutes, nous parlerons du processus de paix au Mali. Les principaux groupes rebelles du Nord ont fini par signer l'accord pour la paix et la réconciliation. C'était samedi. La cérémonie s'est déroulée à Bamako, mais le plus difficile reste à faire tant l'application, la mise en œuvre de cet accord sur le terrain est un énorme chantier. Il faudra notamment démobiliser, désarmer, réinsérer les combattants ou encore reconstruire l'armée nationale malienne et permettre son redéploiement sur l'ensemble du territoire. Alors croyez-vous en cet accord? Comment le Mali peut-il relever ce défi? Dites-nous quels obstacles faudra-t-il encore surmonter pour consolider la paix? Vous nous rejoignez, vous êtes nombreux au standard, nombreux également sur la page Facebook de l'émission. Je lirai tout à l'heure d'ailleurs quelques-uns de vos commentaires pour alimenter le débat et la réflexion. Le standard, un seul numéro, vous êtes à l'étranger, vous composez le 33 9 693 693 70. Vous nous contactez de France, 09 693 693 70. Le débat du jour, ce sera donc dans une trentaine de minutes, mais d'abord vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés pour décrypter certains sujets que nous abordons dans nos différents journaux, eh bien vous nous appelez, vous êtes les bienvenus, toutes vos questions nous intéressent. Et on a reçu plusieurs questions sur les tensions entre la Russie et les Occidentaux, principalement les États-Unis. Bonjour Florentin.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus, on vous écoute.
Oui, la semaine dernière, c'était les États-Unis qui prévoyaient masser des armes lourdes aux frontières de la Russie. Et maintenant, c'est la Russie qui, en riposte à ce projet américain, annonce un renforcement de son arsenal nucléaire. Alors, mes questions sont les suivantes. Quels sont les arguments avancés par les États-Unis d'une part et la Russie d'autre part pour justifier leur décision? Et puis, quel impact ont ces mesures sur la sécurité en Europe de l'Est? Ces mesures ne mettaient pas à mal la stabilité dans la région.
Ouais, c'est vrai qu'il y a comme un air de guerre froide. Hein. On a d'un côté Vladimir Poutine qui annonce le renforcement de la force de frappe nucléaire russe, et de l'autre, les États-Unis qui envisagent de déployer des armes lourdes en Europe de l'Est. Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste des États-Unis. D'abord, expliquez-nous pourquoi Vladimir Poutine a décidé la semaine dernière de mobiliser 40 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux.
Alors c'est là que souvent la machine médiatique et la machine politique souvent vont pas dans le même sens, parce qu'en réalité cette annonce, elle tombe pile au moment où les États-Unis et le New York Times annoncent l'arrivée des armes lourdes. On en reparlera dans les États baltes. Mais en même temps, cette annonce de Vladimir Poutine, elle est prévue depuis très longtemps. Ça fait à peu près depuis 2 ou 3 ans que ces missiles interbalistiques intercontinentaux sont prévus. Alors effectivement, Vladimir Poutine lui-même lit les deux événements, annonce l'événement comme une réponse, alors qu'en réalité, cette décision, elle a été prise depuis un moment. Mais on ne peut pas quand même nier le fait qu'il y a un relèvement des tensions, et pas que rhétorique cette fois-ci. Longtemps, vous avez dit, un souffle de guerre froide, on se lançait un petit peu le mot comme une insulte de part et d'autre, on disait oui, c'est toi qui es dans la guerre froide, c'est toi qui es dans la guerre froide. Et là, ça devient plus concret avec l'annonce probable d'arrivée d'armes lourdes et américaines, sous couvert de l'OTAN quand même, hein, dans les États baltes.
Oui, annonce probable, puisque c'est le New York Times, hein, qui a révélé que les États-Unis envisageaient de déployer des armes lourdes en Europe de l'Est, même si depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a plusieurs pays baltes qui demandent aux États-Unis et à l'OTAN de déployer sur leur sol des équipements militaires.
Oui, et d'ailleurs, après les États baltes, il y a aussi la Pologne, hein, qui demande la même chose. On se souvient que George Bush, il y a quelques temps, lorsqu'il était encore président, avait lancé le bouclier antimissile, qui visait à amener des armes et des missiles antimissiles en Pologne, en République tchèque. Ça avait été abandonné par Barack Obama lors de son grand reset, hein, il voulait refaire les relations avec la Russie, on voit où ça a mené. Donc oui, c'est pas nouveau que l'Europe de l'Est se tourne vers les États-Unis plutôt que vers l'Union européenne pour sa défense. On sait bien que ces pays-là n'accordent qu'une confiance très relative dans leurs partenaires européens pour les protéger contre une menace éventuelle russe, et ils se tournent vers les États-Unis. Ça rappelle vraiment la guerre froide. Il ne faut jamais oublier quand même, plutôt qu'avant de les juger trop vite, ce qu'a été quand même leur histoire pendant 50 ans derrière le rideau de fer.
Ouais, en tout cas, l'OTAN se rapproche indéniablement des frontières russes.
Oui, c'est la première fois que l'OTAN décide d'envoyer des armes lourdes dans une des anciennes républiques de l'URSS. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, il y avait des démocraties populaires, comme la Pologne, comme la République tchèque, mais qui étaient des États indépendants. Et puis il y avait des États qui appartenaient à l'URSS, des provinces de l'URSS, il y en avait 15, et il y avait les États baltes. Et c'est la première fois, effectivement, qu'on va armer lourdement ces États baltes, si c'est le cas. Barack Obama était en visite en Estonie il y a quelques mois, il l'avait déjà annoncé, donc c'est pas une surprise, mais effectivement le calendrier s'accélère, les États baltes étant quasiment persuadés qu'ils seront les suivants. Si l'OTAN n'est pas là, ils seront les suivants après la Géorgie, après l'Ukraine, à souffrir d'une espèce de reprise en main de Moscou sur ces anciennes républiques.
Allez, Thomas Negaroff, Florentin d'Abidjan nous demandait quel impact ces mesures ont sur la sécurité en Europe de l'Est. Ce qui est intéressant de voir, c'est tout de suite la réaction américaine. Les Américains ont minimisé l'importance du renforcement de l'arsenal nucléaire russe.
Oui, c'est un jeu de dupes, c'est toujours pareil. La question étant la suivante, est-ce que lorsqu'on arme, on ajoute de la sécurité ou on ajoute de l'insécurité? Et alors longtemps, très longtemps, avec le nucléaire, on a eu la dissuasion, et au contraire, on considérait que le fait que les pays se dotent de l'arme nucléaire, c'était un élément de sécurité, parce que personne n'osait attaquer l'autre. Là, on peut espérer qu'on soit encore dans la même situation, mais c'est vrai que c'est un signal fort. Les jours, les mois à venir, peut-être les années, parce qu'on est quand même sur du temps, à mon avis, assez long, nous diront si on va vers une zone de conflictualité. Moi, personnellement, je ne le pense pas, mais je pense que c'est un geste politique important de la part de Washington, qui a aussi besoin d'avoir des alliés en Europe et d'amener des armes lourdes, c'est une manière pour eux de rester très présents dans une Europe qu'ils avaient tendance à quitter. Vous souvenez-vous de Barack Obama, son shift vers l'Asie-Pacifique, l'Europe c'était fini, il n'y avait plus d'enjeux, la Russie n'était plus un problème. Là, il y a un retour de l'histoire, et dans ce retour de l'histoire, les États-Unis reviennent, reprennent pied. C'est un peu ironique et paradoxal, on ne pensait pas que ça arriverait, mais en tout cas, au moins aussitôt, les États-Unis sont de retour en Europe.
C'est vrai. Autre question, Thomas Negaroff, c'est Jacques qui nous rejoint, il appelle de Paris. Bonjour Jacques.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui. En effet, je suis préoccupé par ce déploiement d'armes lourdes de l'armée américaine sur le sol européen. Et moi, je suis préoccupé par le fait que l'Europe reste quand même silencieuse par rapport à ce problème, alors que géographiquement, les États européens, l'Europe est exposée s'il y a un conflit réel.
Oui, c'est une bonne question. Déjà, Thomas Negaroff, est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne est silencieuse face au projet américain de déployer de telles armes, effectivement, sur notre continent, l'Europe?
Alors, vous avez devancé ce que j'allais dire, Juan, parce que en réalité, on a tendance à simplifier un peu les choses, parce que c'est pas les États-Unis, c'est l'OTAN. Or, les puissances européennes sont toutes membres de l'OTAN aujourd'hui, en tout cas les puissances de l'Union européenne, enfin à l'exception par exemple des pays neutres, mais enfin globalement sont dans l'OTAN. Et d'ailleurs, l'OTAN elle-même s'est prononcée sur ces livraisons d'armement. Mais effectivement, faut pas être non plus aveugle. Et en général, quand l'OTAN agit, c'est essentiellement Washington qui le fait. Mais les Européens sont pas absents. Restent comme souvent lorsqu'il s'agit de sécurité. Et ça, c'est très guerre froide. Les Européens laissent les États-Unis agir à leur guise. Moi, ça me rappelle vraiment la crise des euromissiles. Alors, je ne sais pas si vous, Juan, ou si vos éditeurs s'en souviennent, mais à la fin des années 70, début 80, il y avait les Soviétiques qui avaient stationné des missiles. Les Américains en avaient fait de même. Et les Européens avaient manifesté. Mais au final, les dirigeants européens, eux, avaient accepté ce parapluie américain, avaient accepté de déléguer leur défense aux États-Unis. Donc, ce qui renvoie finalement à la grande et vieille question de la capacité des Européens à se défendre eux-mêmes de manière collective. Chaque pays européen peut se défendre personnellement, individuellement. Mais la question, lorsque c'est collectif, là, il y a tellement d'égoïsmes nationaux, il y a tellement d'intérêts nationaux qui priment, que souvent il faut la main américaine. Alors on peut le critiquer et s'en désoler, mais c'est souvent ainsi que ça se passe, et c'est à nouveau ainsi que ça se passe.
C'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup Thomas Negaroff, historien, Merci. Directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis. Merci à vous Jacques. de nous avoir appelés. 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur un sujet, vous allez voir, beaucoup plus léger, mais avec des conséquences quand même. On va parler de l'équipe de France de football. Bernard nous appelle du Congo-Brazzaville. Bonjour Bernard.
Bonjour Juan, bonjour à tous les artisans d'appel sur l'actualité, bonjour à Antoine Grenier.
Ah, Antoine Grenier, vous êtes bien informé, c'est Antoine Grenier du service des sports qui va vous répondre. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan, bonjour Bernard.
Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bernard.
Allô, en quoi ces performances, cette équipe de France de football devrait perdre sa place dans le top 10 de la FIFA qui sera publié le 9 juillet prochain? Et à ce sujet, j'ai trois questions. Quelles pourraient être les conséquences sur la France pour le Mondial 2018 de l'éventuelle sortie des Bleus de ce top 10?
Ah, bonne question. C'est vrai que l'équipe de France de football est actuellement 9e au classement FIFA et à force de perdre ses matchs, eh bien, elle pourrait dégringoler à la 25e place, Antoine Grenier, et les conséquences seraient très lourdes pour les Bleus.
Bah, le fait de tomber à la 25e place en tant que tel, ça pourrait ne pas être grave. Le problème, c'est que devant les Bleus, eh bah, il y a 19 équipes européennes. Du coup, les éliminatoires pour la Coupe du Monde en zone Europe, pour le tirage au sort, les équipes sont placées dans différents chapeaux. Et dans 6 chapeaux en tout, en fonction de leur classement dans la FIFA. Les 9 premières nations européennes sont classées dans le chapeau 1, c'est les têtes de série. Les 9 suivants dans le chapeau 2 et ainsi de suite jusqu'au 6e chapeau. Ça signifie qu'au moment du tirage au sort, les équipes du chapeau 1 seront toutes placées dans les différents groupes de qualification. Et les têtes de série ne s'affronteront pas, c'est-à-dire que chaque équipe du chapeau 1 sera dans un premier groupe, etc., dans tous les groupes différents. Les Bleus étant 19e européens seront placés dans le chapeau 2, c'est-à-dire qu'ils auront forcément, ils ne feront pas partie des favoris, et ça veut dire qu'ils auront forcément une tête de série à affronter. Et quand
donc
on
forcément,
voit la tête,
les Bleus vont rencontrer l'Allemagne, l'Espagne,
l'Allemagne qui
ou
est championne du monde, la Belgique qui les a battus en amical, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, tout ça c'est des gros clients. Il faut quand même trouver une bonne nouvelle pour les Bleus, c'est qu'il y a des têtes de série qui seront, sur le papier en tout cas, un petit peu plus abordables, puisque le prochain classement FIFA met en tête de série la Croatie, la Roumanie ou encore le Pays de Galles, ça c'est des vraies surprises.
Ouais, et le tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football
qui aura lieu le 25 juillet.
Le 25 juillet, donc un mois.
Donc prise en compte forcément du classement FIFA de juillet. Forcément, l'équipe de France ne sera pas parmi les favoris et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. La bonne nouvelle, on peut en trouver une autre, c'est que d'autres gros clients européens se trouvent dans la même situation que la France, c'est-à-dire qu'ils ont été quelque peu rétrogradés par leurs résultats de ces derniers temps et que donc les Français les éviteront en éliminatoire, on pense à l'Italie ou encore à la Suisse.
Allez, vous avez une autre question, Bernard ?
Oui, la deuxième, Juan, je voulais bien savoir, est-ce que l'équipe de France pourrait quand même remonter dans le classement avant le tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2018?
Antoine Grenier.
Aucune chance, parce que le seul moyen de marquer des points au classement FIFA, c'est de jouer des matchs. Ouais. De les gagner ou de faire match nul contre les adversaires. Et le problème, c'est que d'ici au tirage au sort en juillet, il n'y a aucun match prévu, donc aucun point à marquer.
Voilà. Une dernière question, il me semble, Bernard.
Oh oui, une dernière question. C'est que Didier Deschamps enchaîne des défaites à la tête des Bleus ces derniers temps. Est-ce que ces défaites peuvent remettre en question sa place de sélectionneur?
Ah, l'avenir de Didier Deschamps est-il remis en cause? C'est vrai qu'il y a eu l'humiliation face à l'Albanie, 1-0, puis à la défaite face à la Belgique, 3-4. Il était quand même très en colère après ces deux derniers matchs.
Oui, il a accusé ses joueurs de ne pas être professionnels, de s'intéresser plus à leur coiffure qu'au match qu'ils jouaient. Didier Deschamps, non, il n'est pas menacé, en tout cas à très court terme, parce que forcément, si cette mauvaise série inquiète, on sait que la France n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs amicaux, il y a eu la défaite contre le Brésil également, c'était en mars dernier, il y a eu la victoire contre le Danemark quand même, il faut une petite victoire, ça fait une victoire pour 3 défaites, mais Didier Deschamps, il garde la confiance de sa fédération, en particulier de son président Noël Le Graët, et il faut expliquer ça par le contexte des matchs qui ont été disputés, puisque ce ne sont que des amicaux, et c'est la première fois qu'un pays organisateur, là pour l'instant d'un euro, dispute des matchs au sein d'un groupe de qualification. la France essuie un peu les plâtres et elle pâtit certainement de la différence de motivation entre les équipes, parce que ce qui n'est qu'un amical pour l'équipe de France, ben pour les adversaires des Bleus, ce sont des matchs qui préparent d'autres rencontres pour les éliminatoires de l'Euro. Forcément, la motivation elle est plus incertaine. L'objectif est beaucoup plus lointain pour les Bleus et ils ont peut-être un petit peu de mal à rentrer dans leur rencontre. En plus, Didier Deschamps, sur les deux derniers matchs, il a pâti en particulier de l'absence de Paul Pogba, qui n'était pas là contre la Belgique, qui était diminué contre l'Albanie. Bref, il a quelques circonstances atténuantes et il n'est pas menacé. Il faudra par contre que la série et le ce qui était né de la Coupe du Monde 2014 revienne, et ça on aura la réponse à partir de septembre face au Portugal.
Eh bien, en espérant que les Bleus reviennent en pleine forme de leurs vacances d'été. Merci beaucoup Antoine Grenier, bonne journée à vous Bernard, merci de nous écouter à Brazzaville. Mamadou nous rejoint, il est à Montreuil. Ah, on me fait signe qu'on a perdu Mamadou. Mamadou qui avait des questions sur la condamnation à mort de Mohamed Morsi. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Vous êtes le correspondant des RFI au Caire, Mamadou, qui revenait sur le verdict de la condamnation à mort de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi. Et Mamadou voulait comprendre comment expliquer le soutien de la Turquie à Mohamed Morsi. C'est vrai que le président Recep Tayyip Erdogan n'a pas caché sa colère après que la justice égyptienne ait confirmé la peine capitale prononcée contre l'ancien président. Et ce n'est pas la première fois que Recep Tayyip Erdogan prend la défense de Mohamed Morsi.
Oui, tout à fait. N'oublions pas que Erdogan est le chef du parti islamiste turc Justice et Développement, et que Mohamed Morsi était le chef du parti Frères musulmans égyptiens Liberté et Justice, qui était une sorte de copie du parti turc. Et pour Erdogan, Morsi est toujours le président légal de l'Égypte malgré sa destitution par l'armée en juillet 2013. Alors il faut rappeler qu'il y a des liens assez forts entre Erdogan et Morsi. En septembre 2011, quelques mois après la destitution de l'ex-président Moubarak, Erdogan, qui était alors Premier ministre, avait fait une visite triomphale en Égypte. Il avait été accueilli par les Frères musulmans, qui à l'époque avaient le vent en poupe, et notamment par Mohamed Morsi. Alors Erdogan était considéré par les Frères musulmans comme étant l'exemple à suivre, même s'il lui reprochait un peu d'être relativement attaché à une certaine forme de laïcité. Oui. Et puis en 2012-2013, la période où les Frères musulmans ont été au pouvoir, la Turquie est devenue un des principaux partenaires politiques et économiques de l'Égypte, avec des contrats juteux à la clé. La destitution de Mohamed Morsi, c'est la perte d'un précieux allié politique, mais aussi un marché de 90 millions d'habitants. Et depuis lors, Erdogan multiplie les déclarations hostiles au régime du président Abdel Fattah el-Sissi et accueille ses opposants frères musulmans et leur chaîne de télé satellitaire qui appelle au soulèvement contre le régime.
Ouais, Recep Tayyip Erdogan qui appelle la communauté internationale à tout faire pour que ces peines soient annulées. Mamadou nous demandait quelle était la réaction de la France. Il dit voilà, la France est le pays des droits de l'homme. Comment expliquer le silence du gouvernement français face à cette condamnation? Savez-vous le sujet a été abordé samedi lors de la visite du ministre français des Affaires étrangères au Caire?
Alors Laurent Fabius a dit lors de sa visite au Caire qu'il avait réitéré l'opposition de la France à la peine de mort, mais il a évité de condamner le régime égyptien. Alors un régime avec lequel il a rappelé que la France entretient d'excellentes relations. Alors d'abord au niveau politique, l'Égypte est un acteur incontournable dans le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Le Caire a des relations avec le Fatah et le Hamas palestinien, ainsi qu'avec Israël. L'Égypte aussi est un des chefs de file de la lutte sur le terrain contre le djihadisme, que ce soit en Libye ou dans le Sinaï égyptien. Et aussi, le Caire est très influent en ce qui concerne le Soudan, la Syrie et le Yémen, ainsi qu'en Afrique de l'Est, comme l'a confirmé l'accord de libre-échange qui a été récemment signé à Sharm el-Cheikh.
Et puis il y a aussi l'aspect économique dans les relations franco-égyptiennes.
Oui, l'Égypte est un énorme marché pour la France, surtout au niveau du blé, et aussi la France est aussi un des principaux investisseurs en Égypte. Et puis, c'est autant de raisons qui ont poussé la France à vendre à l'Égypte des avions Rafale, des navires de guerre et des missiles pour plus de 3 milliards d'euros.
Voilà, donc les relations, on le voit bien, sont au beau fixe hein, entre Paris et Le Caire. Merci beaucoup Alexandre Bouchanti. On salue évidemment Mamadou qui nous appelait de Montreuil en région parisienne. Il sera à 10h30 dans quelques secondes. Le point complet sur l'actualité et on revient dans 10 minutes pour notre débat du jour consacré au Mali.